Every day. Anywhere. Anytime. The Digital Gasbill Journal. Ebenezer International. Your station. La RCEI vous propose d'écouter Logos Pod. Sœurs et amis des ondes, je vous dis bonjour et merci de m'accueillir chez vous avec ce nouveau numéro de Logos Pod. C'est Franck Doristil, votre ami podcasteur et également pasteur pour la radio chrétienne Ebenezer International qui vous parle depuis son home studio basé en France métropolitaine, dans le Val d'Oise. Aujourd'hui, chers amis à l'écoute, je voudrais vous remercier de façon particulière. Quand nous constatons l'intérêt croissant que vous avez pour nos différentes émissions, nous réalisons que c'est vraiment une grande bénédiction que de vous compter parmi nos amis les plus fidèles. Merci de penser à nous dans vos prières, afin que nous puissions continuer ce travail que le Seigneur nous a confié pour l'édification de son peuple partout sur cette terre, dans l'attente de son glorieux retour. D'ici quelques instants, nous vous ferons partager le message du jour intitulé « Jésus, un homme hors du commun » extrait de cet ouvrage qui a pour titre « Voici l'homme Jésus » une courtoisie de la Ligue pour la lecture de la Bible que nous remercions pour sa fraternelle collaboration avec la radio chrétienne Ebenezer International. Dear listeners and friends of the Digital Gospel Journal, I thank you so much for your increasing interest for this ministry, and I welcome you in this brand new edition of Logos Pod. I'm Frank Doistil, your friend podcaster speaking, and it is really a great joy to share with you God's word for this day about Jesus' ministry. Stay in there and pitch. And don't forget to tell all your friends and relatives to join us at www.radioeben-ezerinternational.com. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous écoutez l'émission Logos Pod. Avant le message du jour, accueillons Danny et Moïse Hurtrel dans Le regard de Jésus. Bonne écoute à toutes et à tous. Logos Pod. Thank you. Gospod. Chers amis à l'écoute, pour vous introduire le sermon du jour, je vous lis ce texte que nous trouvons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, les versets 5 à 12. Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 5 à 12. Le lendemain, leur chef, ainsi que les anciens et les scribes, s'assemblèrent à Jérusalem, avec le souverain sacrificateur Anne, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la famille des principaux sacrificateurs. Ils firent comparaître au milieu d'eux Pierre et Jean et demandèrent « Par quelle puissance ou par quel nom avez-vous fait cela ?» Alors, Pierre, rempli d'Esprit Saint, leur dit « Chef du peuple et ancien, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme infirme et sur la manière dont il a été guéri, sachez-le bien, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en bonne santé devant vous. C'est lui, la pierre rejetée par vous, les bâtisseurs, est devenue la principale, celle de l'angle. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Parole du Seigneur, extraite du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, versets 5 à 12. Prions. Seigneur, toi qui connais les besoins de tous les cœurs, et toi aussi, qui seul peut les satisfaire, nous te prions, Père, de nous accompagner pendant ces minutes que nous allons passer avec nos frères et sœurs, nos amis auditeurs. Permets que cette parole soit comme une source de bénédiction abondante pour chacun d'eux. C'est au nom de Jésus, notre divin Sauveur et ton Fils bien-aimé, que nous te prions. Amen. Jésus, personnage hors du commun. Amis à l'écoute, l'homme Jésus a quelque chose de fascinant. Que l'on soit chrétien ou pas, force est de constater que sa vie a été emblématique, source de multiples inspirations, foncièrement exceptionnelle et profondément énigmatique. Ses discours, rapportés dans les quatre évangiles, ont été révolutionnaires en son temps et dans son contexte, autant historique que religieux. Mais étonnamment, ces mêmes propos demeurent d'une redoutable force. Redoutable, parce qu'ils sont toujours capables de renverser les régimes et les institutions, quels qu'ils soient. Dans le message de ce jour, chers amis à l'écoute, nous voudrions mentionner quelques étapes impressionnantes de la vie de Jésus de Nazareth. Le message de cet homme trouve naissance et sens au travers de ces étapes déterminantes. Tout d'abord, jetons un coup d'œil sur la crèche. La crèche n'est pas seulement l'écho sympathique d'un folklore entretenu dans l'imagerie d'Épinal. Elle est une réalité. Jésus est né dans une famille pauvre et simple, sous le règne de l'empereur César Auguste, alors maître d'une grande partie du bassin méditerranéen. Sa naissance intervient au moment d'un recensement imposé par l'autorité romaine, lequel recensement obligea des milliers de personnes à prendre la route puisqu'il fallait se faire recenser dans sa ville d'origine. Le couple Marie et Joseph se retrouva ainsi à Bethléem lorsque Marie accoucha, logée dans une étable. Jésus est donc né sous le signe de l'humilité. Qu'en est-il des mages? Lorsque l'on installe sous son sapin une crèche, on n'oublie généralement pas les trois rois mages, figures exotiques et santons indispensables au décor. Les évangiles parlent bien de mages, mais ne les présentent jamais comme rois et ne disent pas non plus combien ils étaient. C'est parce que trois cadeaux sont offerts à l'enfant Jésus et surtout à ses parents que la tradition décida qu'ils étaient trois. C'est la même tradition folklorique qui donne des noms à ces mages et même des couleurs. Sur ces points, la Bible est bien plus discrète. Quoi qu'il en soit, il est vrai que des mages se sont rendus premièrement chez le roi Hérode pour chercher Jésus. Hérode n'était pas au courant de la naissance de cet enfant, mais il s'inquiéta de son arrivée parce que les mages le désignèrent déjà comme le roi des Juifs. Inquiet pour son propre trône, Hérode fit mine de s'intéresser au lieu de la naissance de Jésus, mais prémédita de l'y trouver pour le tuer. C'est ainsi que Jésus ne naît pas seulement sous le signe de l'humilité, mais aussi sous le signe de l'insécurité. Je vous rappelle que vous suivez l'émission Logos Pod sur votre radio Ebenezer International. C'est l'heure d'une pause musicale. Invitons l'artiste Pat Bernin, qui va nous offrir un morceau intitulé « Je t'aime, Seigneur ». À toutes et à tous, nous souhaitons une agréable écoute. Logos Pod.
Ta parole est comme une lampe pour mes pas, éclairant mon chemin. J'ai promis d'obéir à tes lois, car je t'aime, Seigneur. Ta fidélité demeure d'âge en âge, ta grâce est pour toujours, que ma vie te rend tout mon hommage, car je t'aime, Seigneur. Seigneur. Oui, je t'aime, Seigneur.
Logospod. Nous remercions l'artiste Pat Bernin pour ce morceau. Je t'aime, Seigneur. Parole qui doit être aussi notre prière, vu l'amour incomparable que nous a démontré Jésus par sa naissance, sa mort et sa résurrection, en vue du pardon de nos péchés. Et je vous rappelle que le message du jour a pour titre « Jésus, un homme hors du commun ». Parlons maintenant de la fuite de Joseph et de Marie en Égypte avec l'enfant Jésus. Amis à l'écoute, l'Évangile signale que les mages ont décidé de ne rien dire à Hérode, divinement inspiré des projets assassins de ce dernier. Ils s'en retournèrent chez eux sans repasser par Jérusalem. De son côté, Joseph, époux de Marie, est également averti par Dieu de ne pas rester là où il est. La menace d'Hérode plane. C'est pourquoi Joseph et Marie s'enfuirent loin de Nazareth, où ils étaient rentrés, protégeant ainsi l'enfant. Mais le roi Hérode, violent et jaloux de son pouvoir, décida de fondre sur la région de Nazareth et, puisqu'il ne savait pas où était passé Jésus, il ordonna de mettre à mort tous les petits garçons de moins de 2 ans. C'est ce que l'histoire conservera en mémoire sous le titre tragique du massacre des innocents. Troisième signe sous lequel Jésus est né, celui de la violence. Et nous vous rappelons les 2 premiers signes, l'humilité, l'insécurité, plus ce troisième qui est la violence. Parlons maintenant de Jean-Baptiste. Environ 30 ans plus tard, un étrange personnage fait parler de lui sur les bords du Jourdain. Jean. C'est un cousin de Jésus. Il est né quelques mois avant lui Et parce que son père était prêtre au temple de Jérusalem, c'est dans ce temple que nous devrions le retrouver. Or, Jean semble refuser cette fonction religieuse et se trouve à réclamer une nouvelle conscience spirituelle de la part de ses contemporains. Il scande un message assez radical et surtout, il annonce la prochaine venue de l'envoyé de Dieu, le Messie. Bien des personnes de toute classe sont bouleversées par ce message de conversion et Jean institue une pratique particulière, le baptême. Les personnes prêtes à changer de vie le manifestent en se laissant plonger dans le Jourdain. Le symbole n'est pas seulement celui d'un profond nettoyage, mais c'est aussi et surtout le signe d'une mort à son ancienne vie sous l'eau et d'un retour à la vie, à une nouvelle vie, hors de l'eau. C'est là qu'intervient brusquement et à nouveau Jésus, au milieu des auditeurs de Jean le baptiseur, ou le baptiste, et bientôt Jean-Baptiste. Jésus arrive et demande lui aussi le baptême. Chers amis à l'écoute, c'est par cette action publique que Jésus va commencer à faire parler de lui. Le baptême qu'il accepte n'est pas seulement l'inauguration de son action, c'est aussi un nouveau signe déterminant qui ne sera décrypté que 3 ans plus tard. Jésus est placé sous le signe de la mort et de la victoire sur cette mort, c'est-à-dire la résurrection. Et si nous prenions une nouvelle pause musicale avec l'artiste Marcel Bungo? Logos Pod. Il s'appelle Emmanuel.
Premier siècle, il s'appelait Emmanuel. Son langage était troublant,
car il parlait toujours d'amour,
ayant eu comme ami les pauvres pécheurs de Galilée, qui le suivit jusqu'au pied de la croix.
mi-parcours. Dans un autre message, chers amis à l'écoute, nous vous parlerons de ce qu'il est convenu d'appeler le ministère de Jésus, autrement dit, son action et son message. Mais, puisque nous en sommes à signaler les étapes importantes de sa vie, il convient de signaler ce que l'évangéliste Luc place presque exactement au centre de sa biographie, l'épisode de la transfiguration. Nous sommes là aux frontières du réel, selon une expression chère aux scénaristes de science-fiction. Jésus, généralement entouré de 12 compagnons, ses disciples, demande à 3 d'entre eux de le suivre sur le sommet d'une montagne. Lorsque les 4 hommes sont parvenus au sommet, il se passe un événement exceptionnel. Brusquement, la personne tout entière de Jésus s'illumine et resplendit d'une lumière étincelante. Les 3 amis de Jésus sont à la fois effrayés et fascinés. Et, pour ajouter à la surprise, 2 personnages tout auréolés de blancheur, eux aussi, apparaissent et discutent avec Jésus. L'évangéliste Luc précise qu'il s'agit de Moïse et d'Élie, 2 hommes illustres de l'histoire ancienne du peuple juif. C'est alors le télescopage des temps. Mais comme une surprise n'arrive jamais seule, voici qu'une voix se fait entendre et déclare
« Celui-ci est mon fils, celui qui a été choisi. Écoutez-le. »
Cet événement, chers amis, auditeurs et auditrices, et cette vision hors du temps, sont encore un signe sous lequel se place Jésus, celui de la gloire à venir. C'est ainsi une note d'optimisme, alors que les mois qui suivront, les derniers de la vie de Jésus, s'annoncent particulièrement sombres. La coalition. Jésus devient de plus en plus populaire parmi le peuple. Et lorsqu'il ressuscite son ami Lazare, mort depuis 3 jours, sa notoriété et son influence deviennent si grandes qu'elles dérangent les institutionnels, notamment les religieux. Ces derniers décident de se débarrasser de cet homme qui, par ailleurs, met souvent en cause les prêtres et les autorités religieuses. Une véritable coalition va se liguer contre Jésus jusqu'à susciter la trahison d'un de ses proches, Judas. On arrête alors Jésus. On le juge rapidement, en faisant appel à de faux témoins et en oubliant, au passage, les procédures légales. Qu'importe, on veut sa peau et on l'aura. Mais il faut la caution du pouvoir en place, c'est-à-dire Rome, en la personne du gouverneur Pilate. Ce dernier se sent dépassé par cette étrange affaire qui semble être surtout une querelle religieuse à laquelle il ne comprend pas grand-chose, si ce n'est qu'il sent bien être, plus ou moins, manipulé par les prêtres de Jérusalem. Il sauve alors la face avec son célèbre « Je m'en lave les mains », mais livre Jésus aux autorités religieuses qui le condamnent. Sans attendre, et tout dans le procès et dans l'exécution de la sentence, sans la précipitation pour éviter la montée d'une réaction. Jésus est conduit sur le mont Golgotha. Là, selon le procédé romain, il est mis en croix. L'ultime combat. Jésus en croix, voilà sans doute au monde le portrait le plus répandu de cet homme. Dans le cœur des églises, au cou de millions de personnes, à la croisée de milliards de chemins, sur le sommet de multiples montagnes, la croix et Jésus agonisant. Cette image frappante et injuste veut démontrer le point central, pour ne pas dire crucial, de la vie de Jésus. Une fin horrible pour un homme de bien. Sur cette croix, Jésus va souffrir plusieurs heures avant de mourir. Ce seront les heures les plus insupportables de sa vie. C'est le moment où, pour la première et dernière fois, le doute l'atteint. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? De fait, c'est dans la solitude la plus profonde que la mort de Jésus prend un sens profond. Dès qu'il aura passé ce cap de l'abandon total et nécessaire, Jésus pourra rétablir le contact avec Dieu, qu'il appellera du coup Père. Père, tout est accompli. Je remets mon esprit entre tes mains. Tout est accompli. Oui, cette parole, chers amis à l'écoute, est énigmatique pour beaucoup. Pour la comprendre, il faut se servir d'une clé que nous avons un peu perdue aujourd'hui, mais qu'il est possible de retrouver dans la Bible, puisqu'elle s'évertue à la présenter sans cesse. En effet, il faut se souvenir du sens du sacrifice dans la culture de l'époque et ce que représente celui de Jésus. Pour mieux saisir ce point, nous vous parlerons bientôt sur le sens de la croix de Jésus. Et pour conclure, quelques mots concernant le tombeau vide. Lorsque, au matin de Pâques, des femmes arrivent au tombeau où avait été placé le corps de Jésus, elles trouvent l'emplacement vide. Le corps avait disparu. Il ne restait que quelques linges qui avaient couvert le cadavre. On pense d'abord à un déplacement du corps, peut-être à un vol scabreux. Mais la vérité est ailleurs. Jésus est ressuscité. 3 jours après sa mort, on le retrouve vivant. Il ne faut plus chercher de logique. Jésus est le Fils de Dieu et il le prouve, défiant les lois de la nature, lesquelles sont œuvres de son Père. Le Père, comme le Fils, ne sont pas soumis aux mêmes lois que le commun des mortels. La résurrection, chers auditeurs et auditrices, est le signe de la victoire sur la mort, parce que la mort n'est pas l'issue fatale, inévitable et obligatoire de la vie. Elle est une étape qui peut être dépassée. La résurrection est dépassement et surclassement. Dépassement parce qu'elle donne une dimension supérieure et une crédibilité incontestable aux propos et aux gestes de Jésus. On aurait pu dire qu'il était un excellent discoureur et un grand guérisseur. Sa résurrection fait exploser cette perception restrictive. Surclassement par rapport à toute philosophie et même toute religion. La victoire, une fois pour toutes, sur la mort, est déjà un élément unique par l'expérience de Jésus, mais parce qu'elle ressemble et concentre toutes les morts dans la perspective de la résurrection du plus grand nombre, elle est inédite, parfaite et incomparable.
Mélange, puis la parole est dites aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus, qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Est-ce que tu es vivant?
Gospod.
Every day, anywhere, anytime, the Digital Gospel Channel, Ebenezer International, your station.
Chers amis à l'écoute à ce nouveau numéro de Logospod, qui était une courtoisie de la Ligue pour la lecture de la Bible, et notre message avait pour titre « Jésus, un homme hors du commun », un extrait de cet ouvrage à publier par la dite société intitulé « Voici l'homme ». Lors d'une prochaine édition de Logospod, nous verrons avec vous d'autres facettes de la vie de cet homme hors du commun, Jésus. Si ce programme vous a plu, si vous avez des commentaires, des suggestions, des questions, soyez libre de nous les envoyer. Nous serions très heureux de vous lire et surtout de savoir ce que vous pensez de ce ministère, la RCEI. Avant de partir, je voudrais remercier le responsable de la Ligue pour la lecture de la Bible qui nous a accordé sa permission pour utiliser cet ouvrage dans le cadre de nos émissions. Et nous prions pour que le Seigneur bénisse davantage cette société qui travaille pour répandre la bonne nouvelle et surtout la connaissance des Saintes Écritures dans tous les cœurs. Je voudrais remercier également tous les artistes, les sociétés de production de musique chrétienne qui acceptent de collaborer avec nous dans le cadre de notre travail sur cette radio chrétienne, Ebenezer International. Si le Seigneur vous met à cœur de supporter ce ministère d'une façon ou d'une autre, nous ne voulons pas vous empêcher de le faire, puisque cela pourra aussi vous être une grande bénédiction, puisque la Bible nous dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et à vous tous, fidèles auditeurs et auditrices qui étiez branchés depuis le début de ce programme jusqu'à cette dernière minute, je vous remercie de votre écoute et vous donne rendez-vous pour la prochaine édition de Logospod. C'était pour vous servir au micro et à la réalisation votre ami podcasteur Franck Douristil qui vous dit au revoir. Vous venez d'écouter Logospod sur la RCI, la radio chrétienne Ebenezer International, The Digital Gospel Journal, Your Station.
Comme on s'en va.